Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 21 décembre. Des voies réservées au covoiturage sur les axes M6 et M7 à partir d'aujourd'hui. La région Auvergne-Rhône-Alpes a connu un excès de mortalité lié à l'épidémie de Covid sur la période du 1er septembre au 7 décembre, une augmentation des décès de quelque 41%. L'auberge de jeunesse située montée du chemin neuf à Fourvière, transformée en centre d'hébergement d'urgence, nous avons rencontré Yvan Couriol, le directeur des activités de l'entraide de Pierre Valdo en charge de la gestion de ce centre d'hébergement d'urgence. Nous l'écouterons dans cette édition. SFR lance aujourd'hui son service 5G à Lyon, malgré les réticences du maire écologiste Grégory Doucet. Monseigneur Olivier de Germay a été installé comme nouvel archevêque de Lyon hier après-midi à la primatiale Saint-Jean. Nous l'écouterons à la fin de ce quart d'heure lyonnais.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Dès aujourd'hui, la métropole de Lyon ouvre des voies réservées au covoiturage sur les axes M6 et M7. Au nord, entre l'échangeur de la gare d'Ardilly et celui du Val-Vert à Tassin. Au sud, entre l'échangeur de Pierre-Bénite et celui de Confluence. Seuls les véhicules transportant au moins deux personnes. Les véhicules avec une vignette critère zéro. Les taxis également pourront emprunter ces voies. Des capteurs et des caméras capables de lire les plaques d'immatriculation vont contrôler les véhicules sur ces voies. Ils permettront de vérifier aussi le nombre de passagers et s'il s'agit bien d'un véhicule électrique ou hydrogène, critère zéro autorisé. Un panneau diffusera la plaque d'immatriculation du véhicule non autorisé et l'invitera à sortir. Des contrôles de police pourront être effectués pour verbaliser les contrevenants. Il vous en coûtera 135 € d'amende, mais pas de retrait de points. Ces voies situées à gauche ne sont dédiées au covoiturage qu'en semaine, du dimanche soir minuit au vendredi soir minuit. Le week-end, tout le monde peut y circuler. Le 24 septembre 2011, la gendarme Myriam Sacri était retrouvée morte, tuée par son arme de service dans son appartement de la caserne Delfos à Perrache. Malgré une plainte déposée par sa famille pour meurtre et harcèlement moral, un non-lieu allait être prononcé. On s'achemine toutefois vers la réouverture de l'enquête 10 ans après, en raison d'éléments nouveaux. La demande de reprise de l'enquête en raison de charges nouvelles a été jugée recevable par le parquet général. À l'origine de cette demande, des déclarations de témoins qui n'ayant pu être soumises à l'examen du magistrat instructeur sont cependant de nature à donner au fait de nouveaux développements utile à la manifestation de la vérité. Décision attendue le 26 janvier quant à une réouverture de cette information judiciaire.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Le Rhône a enregistré 4 décès hospitaliers en raison du Covid-19 ces dernières 24 heures, ce qui porte à 1749 le nombre de patients décédés du Covid dans le département depuis le 1er mars. 40 nouveaux patients ont été hospitalisés, soit 9 de moins que la veille. En 24 heures, 3 patients sont entrés en réanimation. Selon l'INSEE, la région Auvergne-Rhône-Alpes a connu un excès de mortalité lié à l'épidémie de Covid sur la période allant du 1er septembre au 7 décembre, une augmentation des décès de 41% par rapport à 2019, directement lié à l'épidémie qui a tué 10 427 personnes dans la région depuis le 1er mars. 25 699 personnes sont décédées sur la période, 7 457 de plus que l'an passé aux mêmes dates. Auvergne-Rhône-Alpes reste la région française où cette surmortalité est de loin la plus forte. Dans le Rhône, la surmortalité est un peu plus faible avec une hausse de 33% malgré tout. 90 000 tests ont été effectués dans le Rhône depuis le lancement de la campagne de la région mercredi dernier. Des dépistages qui ont permis de révéler 4 000 cas positifs, dont 900 pour la seule journée de vendredi. 500 lycées ont pu participer et environ 100 000 tests ont été réalisés pour les lycéens, les enseignants et les personnels administratifs. La campagne de dépistage se poursuit jusqu'à mercredi. 1358 places sont mobilisées cet hiver contre 1200 l'an passé dans le cadre du plan hivernal coordonné par l'État. Parmi les espaces nouvellement intégrés au dispositif figurent l'ancien hôpital Charial à Francheville, le centre social Ribou près de la Part-Dieu ou encore l'auberge de jeunesse de la montée du chemin neuf à Fourvière. Propriété de la ville de Lyon, le bâtiment est concédé à la Fédération Unie des auberges de jeunesse qui a donné son accord pour que 156 personnes soient mises à l'abri dans cette demeure qui surplombe Lyon. Nous avons rencontré Yvan Couriol, directeur des activités de l'entraide Pierre Valdo, en charge de la gestion de ce centre d'hébergement d'urgence.
Les familles, on les reçoit sur des orientations qui nous sont proposées par la Maison de la Veille Sociale, donc qui orientent les familles en fonction de critères qu'on leur donne, hein, c'est-à-dire une chambre de 4, une chambre de 6, des étages, pas d'étages, parce qu'il faut qu'on soit à peu près le plus ajusté possible sur les profils qu'on reçoit. Après, les ménages, on les découvre quand ils arrivent. Et au fil de l'hébergement, on découvre leur situation. On n'a pas Très peu d'informations, hormis la composition familiale, l'âge des enfants et des adultes. Et c'est au fil de l'hébergement qu'on décrypte ces situations. Des fois qu'on arrive à les réorienter parce qu'on découvre des situations qui peuvent être mises sur un parcours d'insertion, donc les réorienter vers d'autres structures. Voilà, c'est les missions principales de l'équipe qui est là, c'est accueillir, héberger, accompagner et éventuellement aider à leur réorientation sur un parcours plus adapté.
Oui, l'objectif, ce n'est pas uniquement un hébergement d'urgence, c'est d'aller au-delà et de faire vraiment une insertion derrière.
On n'est pas sur un... c'est pas un gymnase, hein, c'est pas un toit pour la nuit et la journée on est dehors. C'est vraiment de décrypter les situations, de les scanner, si on peut dire, de proposer des choses aux familles en accompagnement, parce qu'on sait très bien qu'on va être confronté à des questions sanitaires, éventuellement scolaires pour des enfants et d'autres, hein, qu'on méconnaît aujourd'hui, mais des questions administratives, peut-être des questions de séjour, enfin toutes ces questions-là, qui d'accès à certains droits, et, mais ça, on le découvre au fur et à mesure, et c'est important, parce que le renfort hivernal, c'est fini le 31 mars, il faut que le 31 mars, on ait pu avoir une vision claire de toutes ces situations, même des fois bien avant, pour proposer des réorientations, pour inscrire les gens dans des parcours d'hébergement, et fluidifier tout ça, on est vraiment sur cette dynamique-là. C'est pas un truc qui se pose, qui attend, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça soit actif, et que tout le monde y gagne. C'est-à-dire que ce soit les institutions de l'État qui proposent ces hébergements, les familles qui sont prises dans ces parcours-là, nous, associations, qu'on a un travail dynamique avec eux, et qu'on arrive à proposer autre chose en fin de parcours qu'une remise à la rue imbécile qui ne sert à rien.
Quelle est votre mission au sens général de l'entraide de Pierre Valdo, au-delà de ce site-là ?
L'entraide de Pierre Valdo, on est centré sur l'accompagnement des publics en difficulté. Historiquement, on était sur les demandeurs d'asile, les réfugiés. On est aujourd'hui sur les mineurs non accompagnés, sur les femmes victimes de violences, sur des publics comme ceux qui sont ici, qui sont dans l'exclusion, public généraliste, familles isolées. On est aujourd'hui installé. On travaille sur 6 départements, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, l'Isère, le Vaucluse. On est sur ces départements, toujours avec ces missions-là. Et puis, on a une petite spécificité dans le 5e arrondissement de Lyon, où on a un accueil de loisirs sans hébergement, qui est là depuis des décennies, qui accueille des enfants de Lyon et de communes environnantes, les mercredis, les vacances scolaires, et on travaille aussi sur le périscolaire avec ces équipes-là.
La crise du Covid a apporté un public particulier, enfin a changé un petit peu la donne dans ce domaine-là.
Elle a complexifié les choses, c'est-à-dire que vous le voyez dans l'espace où on est obligé d'organiser des repas avec des distanciations, avec des mesures d'hygiène à mettre en place, à les faire entendre et comprendre à nos publics qui sont déjà souvent un peu éloignés de ces questions-là. Pour les salariés, il y a des impacts aussi. Le travail en réunion est plus difficile. Le travail en réunion partenariale l'est aussi. Et puis, il y a des situations que je pense qu'on va retrouver peut-être en hébergement, des situations qui ont été très fragilitées par la crise du Covid, la perte d'emploi, des choses comme ça. Ça peut arriver aussi. Hein. Ça touche tout un secteur social immense, cette crise-là.
Yvan Courriol, directeur des activités de l'entraide de Pierre Valdo. L'opérateur téléphonique SFR Groupe Altice va lancer aujourd'hui son service 5G à Lyon, et ce malgré les réticences du maire écologiste Grégory Doucet. Fin septembre, le conseil municipal de Lyon avait adopté un vœu demandant un moratoire sur la mise en place des nouvelles infrastructures. Grégory Doucet, informé par le PDG de SFR vendredi, a pris acte de la décision. Il ne peut s'y opposer. Doucet rappelle toutefois son attachement à l'instruction rigoureuse et exigeante des dossiers d'information que doivent transmettre les opérateurs au service de la ville lors du passage en 5G. Après le retrait puis la démission de Philippe Barbarin en mars dernier, c'est Mgr Olivier de Germay, 60 ans, qui prend la relève. Ce dernier a été installé comme nouvel archevêque de Lyon hier après-midi à la primatiale Saint-Jean. 300 personnes ont assisté à cette messe d'installation durant laquelle le nouveau primat des Gaules est revenu sur les affaires qui ont ébranlé le diocèse de Lyon, les affaires de pédophilie. Mgr Olivier de Germay.
Je sais bien que ce que l'on a appelé les affaires a blessé, a abîmé l'unité de notre diocèse. L'affaire Prena est devenue l'affaire Barbarin et il y a eu les pour et les contre. Mais ne me demandez pas de prendre parti dans ce conflit qui a été destructeur. Tout cela appartient au passé. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la nécessité de poursuivre un chemin de paix et de réconciliation. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la souffrance des victimes. Nous ne pouvons pas l'ignorer. En tant que membres du corps de Christ, cette souffrance nous atteint tous. Et en ce jour solennel, je m'incline devant elle.
Monseigneur Olivier de Germay, le nouveau primat des Gaules, Saint-Cyrien de formation, il a découvert soudainement sa vocation à l'âge de 30 ans. Football en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais remporte un succès indiscutable à Nice 4-1. L'Olympique Lyonnais est ainsi deuxième à égalité de points avec Lille, tandis que l'AS Saint-Etienne a dû concéder le nul à domicile face à Nîmes 2-2. Basket en Ligue féminine, l'ASVEL sérieuse s'est imposée face à Saint-Amand-les-Eaux 89-55. Et puis le terrifiant spectacle Horror Night, qui met en scène le meilleur de l'horreur et du fantastique en ciné-concert symphonique, va passer par la Halle Tony Garnier, un ciné-concert en deux actes de 50 minutes. Qui fera la part belle aux meilleurs films d'horreur, Psychose, L'Exorciste, Les Dents de la Mer, Alien ou encore Freddy. Ce sera le 18 décembre 2021. Sachez que les billets sont d'ores et déjà en vente. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une nouvelle édition. Passez une excellente journée et restez prudents.